Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
This episode of Canada Land is brought to you by Douglas, a mattress that is trusted by more than 200,000 Canadians from coast to coast to coast. It's a great mattress at a very reasonable price point. Comes with a 20-year warranty. And a great deal for our listeners. Douglas is giving you a free sleep bundle with each mattress purchase. Get the sheets, pillows, mattress, and pillow protectors free with your Douglas purchase today. Visit douglas.ca/CanadaLand to claim this offer. That is douglas.ca/CanadaLand. This episode of Canada Land is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. There is an incredible facility right here in downtown Toronto that is helping on the front lines and is doing incredible innovative research. They are a facility that treats everybody with dignity, and they need your help. May 6th to 12th is Mental Health Week. If this matters to you, help CAMH. There's no better place for your resources. Go to camh.ca/CanadaLand and donate now. Help CAMH treat addiction and build hope.
Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, je discute avec Raed Amoud, qui est journaliste, animateur, artiste de hip-hop.
Poussière d'étoiles dans le cosmos, donne-moi un mic et c'est l'osmos. Entre toi et moi, je voyais autre chose.
Beaucoup, beaucoup de choses. Bonjour à Raed, ça fait plaisir que tu sois là.
Merci pour l'invitation, je suis très heureux d'être là.
Dans l'épisode, on va discuter aujourd'hui. Comment résumer ce dont on va discuter aujourd'hui? On va discuter de l'art de faire du journalisme ouvert sur le monde en temps de guerre. Vaste question. Et puis, peut-être de comment créer du contenu ou d'intéresser les gens à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Bienvenue à Détour. Raed, j'ai envie de commencer la discussion peut-être en situant les gens sur pourquoi est-ce que j'avais envie de faire cet épisode-là avec toi, ce podcast-là avec toi. Je suis déjà ce que tu fais depuis plusieurs années. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont suivre aussi ce que tu fais depuis plusieurs années. Tu crées des documentaires qui sont super intéressants, notamment Théo Youssef sur Télé-Québec.
Automne 2014. C'est une journée que je ne suis pas prêt d'oublier. J'étais en route vers le travail. Comme tous les jours, je lisais les nouvelles quand une manchette a tout de suite retenu mon attention. Trois Québécois partis faire le djihad en Syrie. Alors d'abord, il y a la curiosité, mais ensuite, c'est le choc. Je reconnaissais un visage. Sur la photo, là, il y avait Youssef, un ancien camarade de classe.
Kim Grande Souche sur TV5.
J'ai quitté ma terre natale.
J'ai enterré une vie pour en recréer une autre.
J'étais triste, mais décidée.
J'étais prêt pour une nouvelle aventure. Et faire de nouvelles rencontres.
Demain l'Afrique sur TV5.
On est quelque part entre l'ancien et le nouveau, entre les traditions et le progrès. J'avoue que moi, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs dans le monde.
On a des choses importantes à apporter au monde et on va le faire.
Ou dans ce que tu fais, même comme chroniqueur, le thème que je vois aussi qui rassemble plusieurs de tes projets, c'est essayer de créer des liens entre les gens. Les gens ici, les gens ailleurs, les gens d'ici, les gens d'ailleurs. Toujours. Puis, à ma façon, je pense que moi aussi, on a chacun des styles très différents, mais dans mes chroniques aussi, j'essaie toujours d'amener les gens à avoir de l'empathie, peut-être pour des réalités qu'ils connaissent moins, créer des liens entre les gens. Le contexte de la conversation qu'on a en ce moment en onde, c'est des conversations qu'on a hors d'onde aussi, parce qu'on est des amis. Puis, depuis quelques mois, c'est difficile. C'est difficile, je trouve. Personnellement, je vais parler pour moi, je trouve ça difficile de continuer à opérer dans les médias avec la crise, notamment en Palestine, mais peut-être la multiplication aussi des crises, où je sens qu'il y a un écart de plus en plus grand entre ce qui se passe ou ce qu'on nous représente dans les médias et puis ce qui se passe dans le monde.
Moi, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ce que tu fais et ce que des gens comme toi font parce que vous êtes dans le quotidien. Tu vas prendre souvent la parole, tu vas écrire souvent, ce que je trouve extrêmement difficile. Et quand je dis j'ai beaucoup d'admiration et de respect, c'est parce qu'effectivement, il y a des fils qui se touchent entre ce que toi tu fais et ce que je fais dans mon coin. Mais moi, j'ai souvent du temps et le luxe du long terme pour le faire. Donc, j'ai le temps de réfléchir, de repenser les angles morts, de me dire, oh, faudrait peut-être qu'on refasse ça différemment. Et c'est là où je te dis, je trouve ça, ta situation, ou plutôt la position que tu occupes, elle est très importante pour soulever ou mettre la lumière sur des angles morts. Tu sais. Et j'ai beaucoup de respect parce que je ne sais pas comment tu deals ça au quotidien, sincèrement. Là, je ne te dis pas ça parce qu'on est devant un micro, je te dis pas parce que je le pense. Je me dis que des fois, ça doit être très confrontant, dur. C'est beaucoup d'énergie aussi. Et quand ton cerveau est occupé par des affaires très sombres ou très noires, c'est sûr qu'à un moment donné, ça te rentre dedans sur le plan personnel aussi, tu vois. Et moi, je suis quand même assez lâche de ce point de vue-là. Il y a des fois où je fais exprès et je me force à éteindre la télévision, à fermer les réseaux et à ne pas lire là-dessus. Tu vois, je ne suis pas là pour me faire du mal parce que je pense que si nous-mêmes, on n'est pas bien, on ne peut pas aider les autres, en fait.
Oui, mais ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Je le fais aussi. Je pense que la raison pour laquelle j'arrive à écrire sur des sujets aussi difficiles, puis tu sais, je pense que j'en suis peut-être à ma, je sais plus, 8e, 9e chronique sur la Palestine à ce stade-ci dans les derniers mois, là. C'est que quand je peux pas, je prends des pauses.
Et qu'est-ce que tu rajoutes de nouveau? Tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
Je veux dire, c'est quoi l'information de plus que tu vas donner sur ce sujet-là qui va convaincre des gens s'ils sont pas déjà convaincus qu'il y a un réel problème d'humanité, je vais l'appeler comme ça.
Ouais. T'sais? Ça dépend. C'est sûr qu'il y a des gens que tu peux convaincre, il y a des gens qui savent littéralement pas à cause de ce qui est l'information qui est offerte ailleurs. Mais il y a aussi des gens à qui je trouve que quand on donne des mots, on leur fait du bien.
Ben oui.
Je trouve que donner des mots aux gens, puis pour moi, c'est un peu ça aussi comme la manière dont je vois le journaliste. Je pense que donner des mots aux gens, c'est déjà une manière d'offrir un baume, parce que sinon, la colère est là, le sentiment d'injustice est là. Mais lorsque les gens n'ont pas les mots, ils ne savent pas comment articuler. Et c'est là que ça explose, c'est là que ça peut péter. Et je pense que le rôle du journaliste, c'est aussi de faire ça. Et moi, tu sais, on se lance des fleurs en ce moment, mais ce que j'admire dans la manière dont toi, tu fais les choses, c'est que quand tu abordes des sujets difficiles en ondes, puis tu le fais beaucoup à la radio, c'est de trouver toujours... tu trouves une lumière, ou même la série « Demain, l'Afrique », que j'incite vraiment les gens à aller voir sur TV5, c'est que, en fait, tu fais le tour de 10 pays sur le continent où il y a des réalités, veux pas, qui sont quand même difficiles, mais tu trouves dans le journalisme de solution, ancré sur « voici telle personne qui est en train de travailler à régler tel problème », il y a une manière de parler des enjeux sans être dans le désespoir. Puis je trouve que tu le fais très bien. Et moi, je sais pas comment toi, tu fais ça des fois non plus.
Ah ouais. Mais quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'il faudrait inventer un nouveau terme, genre du journalisme catharsiste.
Ouais.
Que tu te soignes en faisant ce genre de journalisme-là. Ouais. Mais merci. Mais tu vois, moi, j'ai toujours pensé que je faisais des quêtes journalistiques. Je me suis jamais dit « je fais du journalisme ». Tu vois, mais je sais pas, j'y réfléchis souvent, tu sais, même quand j'avais eu ma... Pour faire TUSF, on m'a donné une carte de presse québécoise, parce que c'est ce qui m'a permis d'avoir ma carte de presse turque, qui m'a permis de... Bref. Et quand je l'ai reçue, j'ai eu un malaise, parce que je me suis dit, moi, j'ai pas la prétention et j'ai pas le... Je sais pas, tu sais, on me dit, je suis très critique des médias, c'est vrai, mais j'ai beaucoup de respect pour les journalistes qui font leur travail dans les conditions actuelles. Et peu importe le genre de journalisme. Je trouve le système... d'information fait que c'est très difficile de bien faire son travail et que ceux qui arrivent, y arrivent contre vents et marées. Tu sais. Mais tu sais, j'adore répondre à des questions quand c'est en direct ou peu importe, mais à la radio, quand on parle de ces sujets-là, ce qui est dur, je trouve, c'est que c'est facile de tomber dans la haine et dans la division.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Peu importe de camp où tu es, peu importe, il y a des excès des deux côtés, il y a des radicaux des deux côtés, et c'est facile de vite tomber dans un discours belliqueux. Et je me suis toujours dit, puis jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de mettre cette base-là, que pour apporter son soutien ou son amour à une cause, t'es pas obligé d'apporter ta haine à celle qui est en face. Puis j'essaie toujours, tu vois, moi, je reçois autant des gens qui m'écrivent des trucs genre « les Palestiniens n'ont jamais existé avant la création d'Israël » ou des trucs comme ça, puis je leur dis toujours « moi, je suis pas là pour convaincre, si t'es convaincu, t'as pas besoin de me le dire à moi. Moi, t'es pas obligé de me le dire. Puis de l'autre côté, je vois des gens qui voient tellement de vidéos d'enfants bombardés, tués, massacrés, qui commencent à avoir une haine contre Israël, on va dire, etc. Mm-hmm. Et moi, je suis anti-haine en général. Et je pense que la solution pour ce coin du monde, et je sais même plus s'il y en a, mais c'est va falloir oublier toutes ces divisions qu'il y a, c'est-à-dire il y a Israël d'un côté, Palestine de l'autre. Il y a l'histoire des Palestiniens et l'histoire des Israéliens, non, c'est la même histoire. Mmh. Il va falloir commencer à se dire qu'il faut un État pour plusieurs peuples, tu sais, ou en fait même pour un peuple, parce que je le vois comme ça. Mais je trouve qu'il y a un point de bascule assez, assez dangereux. Et même ceux qui veulent apporter beaucoup d'amour ou de soutien à la Palestine en ce moment, beaucoup d'entre eux, je trouve, tombent dans un discours de haine ou de guerre ou de ressentiment vis-à-vis de l'autre camp, tu sais.
On a eu la conversation il y a deux épisodes maintenant avec Yara, mm-hmm. un gabarit de Mémoire d'Encrier qui a apporté un peu sa lumière.
C'était touchant d'ailleurs.
Ouais, ouais, sa lumière là-dessus. Ce que tu dis traduit une inquiétude que j'ai aussi. Je la nommerai peut-être pas de la même manière, mais je sens, puis c'est un peu aussi, non, même avec, avec Florence, le dernier épisode, à bien des égards, je sens que y a des, en fait, les gens vont pas bien, hein. Les gens vont... Non, il y a mais... beaucoup. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui vont pas bien, qui regardent ce qui se passe, qui voient leurs droits reculer, puis ou qui voient des gens qui leur ressemblent se faire fusiller, essentiellement, dans l'indifférence. Puis il y a dans cette déshumanisation quelque chose qui est en train d'être très dur à absorber. Puis ce que tu essaies de dire, en fait, c'est d'essayer de trouver une voie de passage pour faire peut-être absorber ça aux gens sans...
Mm-hmm, mais je t'ai trouvé forte parce que je trouvais que son discours était rempli d'amour. Tu sais, même quand tu lui as parlé de son livre « Je suis Ariel Sharon ».
Tu parles de Yara, oui.
Oui, Yara, toujours. Mais c'est pas facile de trouver ce courage-là.
Ouais.
Et tu sais, elle l'a bien dit, mais c'est vrai, je pense qu'on est dans une situation de deuil quotidien. Puis tu dis, ça fait combien de 7 octobre que les Palestiniens viennent de vivre, en fait?
Ouais.
Et pourquoi c'est inacceptable et je veux dire, c'est normal. Ce qu'il y a eu le 7 octobre, on est tous contre, mais tu peux pas le répéter à l'infini de l'autre côté. Et c'est aussi, et c'est ça qui, moi, me fait peur, au-delà du sentiment de pas aller bien, etc., c'est toute forme de radicalisation. Puis beaucoup de gens radicaux sont des gens qui réfléchissent beaucoup. Parfois, c'est des gens très éduqués. C'est ce qui s'est passé même avec Daesh ou d'autres. Mais ça part d'un sentiment d'injustice. Et il peut être plus ou moins vrai, plus ou moins grand. Il y a des gens qui pensent qu'ils vivent une injustice, puis ce n'est pas le cas, puis ils se retrouvent à être radicalisés, puis à aller vers une radicalisation qui mène à la violence. Mmh. Mais là, je vois beaucoup de gens, même dans mon petit cercle, là, je les vois tomber dans un côté un peu spécial de la réflexion.
Ouais.
Ouais, ouais. Et moi, c'est ça qui me fait peur, parce que je me dis, si des gens éduqués, bonne situation, on vit dans un pays où il n'y a pas de guerre, on a l'environnement qui est beau, etc., on tombe dans ça. Je veux dire, combien de nouveaux combattants du Hamas on est en train de créer aujourd'hui? Combien de nouveaux terroristes on va créer aujourd'hui? Et c'est jamais direct, c'est toujours après coup. La génération qui est jeune, qui est en train de vivre ça, dans 10, peut-être un peu moins, mais 10, 15 ans, c'est sûr qu'on va subir une conséquence quelconque. Je ne sais pas comment, je ne sais pas où et de quelle manière, mais il y aura un retour de ce balancier-là. Tu sais.
Sans qu'il y ait quelque chose qui est en train de bouger, qu'on ne sait pas ça va être quoi les conséquences. J'entends ce que tu dis, puis je comprends aussi... peut-être d'où tu le dis, pour que les gens qui ne connaissent pas justement la série documentaire Théo Youssef, mm-hmm. t'es justement parti sur la question de la radicalisation dans le sens de l'islamisme et tout, puis de
radical,
de, ouais, c'est
violent.
Ça.
Ouais.
Exactement. Pour les gens qui n'ont pas suivi, là, tu viens de terminer la troisième et la dernière saison de Théo Youssef. Pour les gens qui ne connaissent pas le projet, comment tu le résumerais?
C'est l'histoire d'un ancien camarade de classe que j'ai étudié avec lui. J'étais, on va dire, au cégep avec lui. Et comme beaucoup, tu sais, tu gardes contact, mais tu perds de vue quand on part à l'université, chacun dans son coin, que j'ai recroisé une ou deux fois et que ce qui m'avait marqué dans la dernière rencontre que j'ai eue avec lui, c'est qu'il avait une grosse barbe et qu'il faisait plus... En tout cas, qu'il avait complètement changé d'apparence. Et je me suis dit, c'est pour le mieux parce qu'il semblait un peu se chercher. Puis au final, c'est l'histoire d'un ami qui est parti rejoindre Daesh quand ça a commencé. Et moi, je me suis demandé comment quelqu'un qui était aussi gentil, serviable, cool... fumait des joints, pas du tout religieux, faisait du skate, jouait de la basse, s'est retrouvé à rejoindre les rangs de l'une des pires organisations terroristes au monde. Mm-hmm. Et donc la quête du premier, c'était Théo Youssef, c'est-à-dire où est-ce que t'es rendu, comment tu t'es rendu là et pourquoi. Puis on a fait finalement une trilogie, le deuxième parlait des enfants, dont la fille de Youssef, et le troisième c'était est-ce qu'on peut vraiment mettre un point final à cette histoire maintenant qu'on parle plus de Daesh dans les nouvelles. Donc c'est ça un peu ce projet-là.
C'est pour ça que je disais, quand je t'entends utiliser par exemple le mot radicalisation, ou quand je t'entends avoir des craintes par rapport à ce que j'ai appelé les plaques tectoniques qui sont en train de bouger en ce moment, c'est aussi parce que pendant près de 10 ans, tu as travaillé sur cette question-là, notamment à travers cette série documentaire-là, que c'est des questions qui t'ont habité pendant très, très longtemps, essayer de réfléchir à qu'est-ce qui amène les gens à prendre des décisions aussi drastiques, puis le voir aussi l'effet que ça a sur la famille, les proches aussi qui sont laissés derrière.
Tout ça parce qu'ils osent combattre Daesh, le prétendu État islamique, dont les troupes se trouvent qu'à quelques kilomètres d'ici, tout proche, de l'autre côté de la frontière syrienne.
Donc, je comprends d'où tu pars avec ça. Je te dirais par contre que moi, je vois qu'il y avait des gens qui avaient une espèce de... étaient peut-être dans le rêve canadien, le rêve américain, et qui voient l'indifférence, peut-être des élites canadiennes, américaines, envers les victimes. Puis là-dedans, il y a une colère, mais là-dedans aussi, comme personne d'origine haïtienne, il y a quelque chose du « oui, mais c'est l'Amérique du Nord, bienvenue en Amérique », en fait, qui est, je pense, important et qui ne mène pas nécessairement à de la violence. Il y a là-dedans aussi peut-être une possibilité de transformation sociale. Lorsque les gens réalisent l'injustice qui existe, il y a une possibilité de canaliser ça dans des forces transformatrices qui peuvent être très positives. Les mouvements sociaux sont construits sur des gens qui réussissent à canaliser leur colère face à l'injustice dans quelque chose de constructif. Puis, en tout cas, dans les communautés noires, ce n'est que ça qu'on fait.
Puis ne pas se sentir trahi, puis de garder le lien de confiance. Moi, longtemps, je ne comprenais pas ça, mais tout notre système moderne repose sur la confiance. La confiance en les banques, c'est comme ça qu'on se dit qu'un papier vaut vraiment de l'argent. La confiance à la justice, c'est pour ça que mes parents immigraient ici, c'est-à-dire de dire, si t'es Canadien, peu importe si t'es riche ou pauvre, s'il se passe quelque chose, tu peux faire face à la justice, puis t'as les mêmes droits, les devoirs que tout le monde. Et je dis ça, en principe, il y a toujours des décalages, mais en majorité, c'est ça. Puis on est en train de briser ce genre de confiance-là. Tu sais. Puis quand on brise la confiance envers les institutions qui te disent on a des droits humanitaires, on a signé la Convention de Genève, etc., et que pour un cas, on les respecte, puis pour l'autre, non, ça a l'air banal, mais je pense que ça a des conséquences beaucoup plus importantes que toute autre forme de trahison. Et c'est là où je pense que nos élites politiques, peu importe où dans le monde, sont peu conscientes de ce qu'ils sont en train de laisser, en fait. Et que ça peut être juste un écran de fumée, mais que de perdre la face comme ça, de perdre cette confiance-là et de l'afficher clairement, je pense que ça a des conséquences très, très néfastes. T'sais. Après, comme je l'ai dit, quand je faisais Théo Youssef, moi, j'accuse pas ou j'excuse pas. T'sais. On vit dans une société extraordinaire. Oui, il y a des problèmes comme partout, mais Dieu merci, chaque jour, je me lève, je remercie le ciel d'être à Montréal, au Québec, au Canada. Je veux dire, c'est incroyable. T'sais. Après, ça vient avec des difficultés, surtout quand tu immigres, que tes parents repartent de zéro, mais faut pas non plus oublier pourquoi nos parents ont fait ces sacrifices-là. T'sais.
Quand tu vois les plaques tectoniques, appelons ça comme ça, qui sont en train de bouger, comment est-ce que ça te fait, ces derniers temps, réfléchir à ton rôle dans l'espace public, ce que tu as envie de faire, le genre de valeur que tu as envie de porter ou le genre de projet que tu as envie de porter? C'est quand même des grosses réflexions existentielles qu'on est en train d'avoir en ce moment.
Ouais. Quand j'étais aux études, à l'Université Morale, je faisais des cours d'économie, puis à un moment donné, je ne sais plus si c'était dans quel cours, mais on avait parlé des valeurs de l'entreprise. Quand j'avais lu ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte des valeurs d'entreprise? Je veux dire, on s'en fout. L'entreprise est là pour faire de l'argent. Quelle valeur, truc. Et là, depuis qu'il y a ça, depuis quelques semaines, moi, maintenant, je comprends tout à fait ce que ça voulait dire. Et des fois, je suis amené à faire des contrats.
Qu'est-ce que ça voulait dire?
Ça voulait dire que c'est très dur en tant qu'employé d'être dans une institution ou une entreprise qui n'a pas des valeurs qui sont en adéquation avec les tiennes. Tu peux pas être vegan et travailler dans une boucherie. Je pense qu'il y aurait un problème. Tu peux, mais ça va être confrontant au jour le jour. Ça, c'est l'exemple extrême. Moi, c'est le cas avec certaines institutions médiatiques dans lesquelles je travaille, où depuis quelques temps, je vois la couverture médiatique vis-à-vis de la Palestine, vis-à-vis du fait que dès qu'on mentionne Israël et la version israélienne, on met des grosses précautions. En fait, t'as l'impression que la vérité se trouve là, et puis que dès qu'on parle de Palestine, c'est comme un rebord de journal, tu sais, et que là, on peut dire ce qu'on veut, on peut se tromper, et puis toujours dire, ah oui, mais c'est le Hamas qui donne les chiffres, ah oui, mais le Hamas, c'est comme, ok, mais moi, ça commence à me heurter, c'est pas ça d'objectivité, C'est pas ça du journalisme, c'est pas ça un bulletin de nouvelles. Et je me dis, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer à travailler pour ce genre d'entreprise où je remarque que, je le sais très bien, tu sais, je déteste les gens qui disent, oh, vous les médias ou les médias. En même temps, c'est normal parce que t'es la face, ou c'est un métier public. Donc forcément, les gens ont le droit de critiquer.
Les gens ne comprennent pas qu'on est des simples pigistes. Hein.
Exact. Oui, mais j'ai choisi de faire ce métier.
Oui, c'est ça, on met notre face dessus, c'est ça.
Voilà, donc oui, tu en veux à quelqu'un, ben, tu as le droit de m'en vouloir parce qu'on fait partie du système. Mm-hmm. Maintenant, je sais très bien qu'il n'y a pas un grand Manitou au top de la pyramide qui te dit « dis ça et dis pas ça ». Mais il y a une forme d'autocensure. Puis on a vu le nombre de gens qui ont claqué la porte de direction, comme même au New York Times, même à CNN, je vois un gros changement entre le début du conflit et là, ce qu'ils ont fait récemment en mettant les noms des enfants morts sur les écrans, en mettant le son d'une fille qui était en train d'être tuée pour dire, écoutez, il y a cette violence-là et on ne peut plus dire que c'est faux. Donc déjà là, je vois un changement de paradigme, mais comme je sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui contrôle en haut puis qui va dire, dis ça ou dis pas ça, mais je sens qu'il y a une trajectoire et que quand tu rentres dans cette entreprise ou dans une entreprise qui a une trajectoire, c'est dur d'aller à côté. Et c'est là où je dis, quand je vois les valeurs de l'entreprise, c'est de me dire, si je dois aller sur un canot, sur une rivière, ben je veux au moins aller dans le sens où je veux aller, je veux que le courant il aille dans le même sens que moi. Il y aura des écueils, à un moment donné, une roche, on ne peut pas l'éviter, mais je veux au moins savoir qu'on va dans la même direction.
Mais le fait que tu portes tellement, on le disait en début, plus des projets à moyen long terme que moi je peux le faire, est-ce que ça ne te donne pas la possibilité de porter des projets justement qui vont dans le sens des valeurs que, je sais pas, tu les découvres pas, là, mais que tu as particulièrement envie peut-être de porter ces temps-ci.
Mais tu sais, tous les projets que je fais, genre, je suranalyse pas. Là, tu sais, comme tu sais, j'avais aucune expérience, je l'ai fait avec mon instinct. Mais c'est juste que je pense que quand tu suis ton instinct et quand tu es honnête vis-à-vis des gens qui nous lisent ou qui nous écoutent ou qui nous voient, on va peut-être pas être d'accord avec toi, mais on va te pardonner si tu fais une erreur, parce que tu l'as affiché. Tu sais, c'est comme Théoussef, je l'ai dit, j'ai un parti pris, c'était un ami à moi dans une classe, forcément je pars de là. Mais tout ce que je vais découvrir, je vais vous le dire. Si j'apprends qu'il est en train de faire des attentats ou qu'il est en train, je vais le dire honnêtement.
Des fois, t'es forcé à te dire, mon Dieu, genre s'il est là-dedans parce qu'il croit à cette violence-là, c'est pas mon ami, là.
Et je pense que si tu as une démarche honnête et authentique vis-à-vis de toi-même, et pour moi, c'est ça l'objectivité, parce qu'on en parle souvent, mais l'objectivité, c'est de dire, moi, je pars de ce point de vue-là intellectuel, je l'affiche clairement, je vais vous parler de cette situation-là, et donc, vous allez me lire en sachant mon biais. Et là, je pense qu'on devient objectif un petit peu, qu'on tend vers l'objectivité.
Ouais.
Certains diront, c'est de la subjectivité.
Exactement, c'est de la subjectivité assumée, c'est de la transparence.
Mais moi, je pense que tu es plus objectif en faisant ça.
Ouais. Tu disais tout à l'heure que je faisais plus de l'actualité immédiate. Pour être honnête avec toi, ce que je trouve très difficile, c'est les moments où je me souviens toute ma vie, puis je pense que je t'en avais parlé ce jour-là, je t'avais écrit, j'étais comme Raël, je t'aboute. Il y avait un moment où vraiment il y avait des bombardements comme particulièrement intenses. Il y avait les images qui circulaient sur Instagram d'une violence inouïe. Puis j'entends dans mon oreillette, tu sais, on est en onde dans une, on est en onde dans 30, on est en onde dans 10. Puis le sujet du jour, c'était, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a eu raison de traiter François Legault de Jean Charest? Tu comprends? Il y a comme...
C'est dérisoire par rapport à...
Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis on en parle avec comme si c'était grave politiquement, puis là, ça va faire bouger les sondages. Puis l'impression que j'ai émotionnellement souvent, c'est que on parle des fois comme des milliardaires qui sont en train de se planifier partir sur Mars puis nous laisser tout le monde dans la merde. Mais j'ai l'impression que parfois...
Mais s'ils ont des billets à donner, moi, je le prends.
Ouais, toi, tu le prends. Mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont déjà rendus sur Mars psychologiquement.
Mais bien sûr, bien sûr.
Puis que parfois, le décalage entre ce que j'entends dans mes propres cercles comme préoccupation puis ce qui est choisi comme les sujets du jour, ça me donne l'impression d'être en jet lag de Mars, de faire des allers-retours à une vitesse extrêmement rapide entre aller dans cet univers-là puis revenir sur Terre extrêmement rapidement. Puis c'est ça que j'encaisse dans mon corps. C'est le décalage entre les sujets d'actualité où on fait semblant qu'on est business as usual, que tout va bien, puis que tout va bien dans le meilleur des mondes. puis de ramener à ce qui se passe sur la vaste majorité de la planète, de retourner là-dedans, d'être constamment dans le décalage, c'est ça que je trouve difficile.
Qu'est-ce qui est vraiment important? Mais en passant, je blaguais pour Mars, parce que même si j'avais l'argent, j'irais pas. Tu sais, je trouve la planète incroyable, mais c'est si on mettait les... C'est toujours dur, parce que si on était juste un peu rationnel, qu'est-ce qui se passe avec la planète? Je veux dire, on a beau se battre en Palestine, je veux dire, ça devrait être la priorité numéro un, parce qu'on ne pourra plus se battre pour rien, tu sais, très bientôt, là, tu sais. Mais je comprends ça. En même temps, peu importe où tu vis, les Palestiniens sont dans un... Je veux dire, une situation intolérable, c'est vrai. Et nous sommes aussi des êtres humains. Donc oui, on voit ça, mais on a aussi nos propres émotions. Tu sais, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui vit un drame personnel. Tu sais, pourquoi des gens millionnaires se suicident, tu sais? Je veux dire, tu as de l'argent. T'as
c'est ça. Oui, non, je comprends, il y a de la souffrance.
Tu comprends, parce que moi aussi, j'ai ce truc-là aujourd'hui. Je trouve qu'en ce moment, c'est très dur de vivre le quotidien et de passer d'un sujet à l'autre. Mon père, il n'y a pas un jour que quand je le vois, je ne le vois pas un peu triste. Puis il me parle pas un peu de ça, et en même temps on n'ose pas tout se dire, parce que ça vient chercher quelque chose. Puis hier c'était la réaction qui m'a le plus marqué, c'est je lui ai dit, ah les pays arabes encore, ils ont rien dit, puis il a juste levé la main, tu sais, genre en mode, il a rien dit, il a juste soufflé, levé la main. Ce soupir-là, pour moi, voulait dire énormément. Tu sais, mon père, il est né l'année de la création d'Israël. Puis il y a plein de gens qui des fois me disent, et au sud Liban, juste pour que vous sachiez, puis à quelques kilomètres. Puis, ce que les gens ne savent pas, parce que moi, souvent, dès que je parle de Palestine, on va dire, oui, c'est normal, tu prends un parti pris, parce que je suis comme... Mais moi, mon grand-père, quand les Palestiniens ont été chassés de Palestine, ils sont allés autour, ils sont allés en Jordanie, mais beaucoup au Liban, au sud Liban. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à créer un État dans l'État. Donc, dans le village de mon père, où mon grand-père était quand même quelqu'un d'important politiquement parlant, les Palestiniens ont commencé à être un problème. C'est-à-dire qu'ils commençaient à vouloir contrôler des quartiers avec des barrages et tout. En fait, ce que les Israéliens ont fait en Palestine, ils voulaient quasiment le faire au Liban. Et ça, c'est la base de la guerre civile qu'il y aura par la suite. C'est Wajdi Mouawad, c'est incendie, c'est exactement cette histoire-là. Mon grand-père, en raison de ses batailles politiques, s'est fait tirer dessus par des Palestiniens qui voulaient l'abattre. Il n'est pas mort de ça, mais quand même. Donc, ma famille n'est pas forcément cool ou peace avec l'idée des Palestiniens. Mais c'est à force de voir... Un, comment ils ont été traités en Israël, mais enfin en Palestine, et ensuite dans les pays arabes, que mon père en vient à ce désespoir-là et ne même plus savoir quoi dire, quels mots utiliser. Comme je te disais, toute radicalisation part d'un sentiment d'impuissance. Ce qui est très dur, c'est qu'aujourd'hui, on se sent impuissant parce que oui, bon, les pays occidentaux, leur allié, c'est Israël, ça a toujours été le cas. Mais quand tu vois que les pays arabes, que la plupart des pays qui ont vraiment un poids ou qui pourraient faire quelque chose, ne font absolument rien, au contraire. Ils utilisent la Palestine dans les discours parce que ça te permet d'avoir beaucoup de soutien de ta population. Puis de l'autre côté, tu vends des armes à Israël. Tu sais. Là, on est au point où on se dit qu'on ne peut pas envoyer des convois humanitaires. Parce que soit déjà Israël interdit l'accès, soit les biens humanitaires tombent sur le sol, on va les bombarder, je veux dire. Où est-ce qu'on a vu ce degré de violence et même... C'est ça la bêtise humaine, tu vois. Et quand tu vois que ça, c'est même plus un point de non-retour, c'est plus une ligne rouge, bah, tu tombes dans le désespoir, tu tombes dans le... Bah, c'est ça, le mouvement qu'il a fait, le souffle qu'il a fait, pour moi, c'était... je suis dépité, en fait. J'ai plus rien à dire. Et ça me fait mal parce qu'il est vieux, puis il voit la situation qui empire d'année en année, tu sais.
Ouais. Ça me fait penser à beaucoup d'années que je vois en ce moment dans la communauté haïtienne. Je pense que c'est les années ont un moment difficile en ce moment.
Ben oui.
This show is sponsored by BetterHelp, therapy online that has served over 3 million people around the world, and it's available here in Canada. And this time of year, we're all emerging from our winter-like seclusion and, you know, patio season and socializing, and it can be terrifically fun, but it can also create a lot of pressure. And some people get, like, anxiety, social anxiety from being out too much. What did Iggy Pop say about social life? It's torture dressed as fun. It doesn't need to be torture. I think it's just about finding, like, the right balance of how much of other people do you want? I mean, we need each other, but I think that at a certain point, it can become overwhelming. And talking to somebody about yourself, about your social life, about your relationships, is a way of gaining insight into what is right for you. It's not selfish to examine that with a professional. And as the largest online therapy provider in the world, BetterHelp can provide access to mental health professionals with a wide variety of expertise in mental health. Listeners of the show get 10% off of their first month at betterhelp.com/CanadaLand. That's better, H-E-L-P, betterhelp.com/CanadaLand. This episode of Canada Land is brought to you by the Center for Addiction and Mental Health, CAMH. We got a tour of their facilities in their downtown Toronto campus, and I was blown away by the heroic work that these people are doing. They are saving lives every day. I know people whose lives were saved, and they just really care about the dignity of the people who turn to them for help. Look, we talk a lot about these issues on Canada Land. We talk about the crisis that is claiming 20 lives every day in Canada to drug overdoses, but we don't give you a lot of options of what you can do about it. CAMH is an option. CAMH desperately needs resources that they directly put into their work, saving lives and turning people's lives around. Listen, May 6th to 12th is Mental Health Week. This is when they need your help the most. Go to camh.ca/CanadaLand to help CAMH treat addiction and build hope.
Je t'entends parler, je t'écoute raconter, puis je trouve que ce que tu partages est très précieux, puis je me dis, merde, pourquoi est-ce que tu es en train de dire cela? On est rendu en février. Pourquoi les espaces pour ce type de conversation-là, la conversation qu'on est en train d'avoir, qu'est-ce qui fait la rareté? Qu'est-ce qui fait que, je veux dire, tu as fait dans les derniers mois quelques entrevues sur ce sujet-là. Tu es allé avec Marie-Louise Arsenault, à Tout peut arriver, tu en as parlé un peu.
Quand on dit qu'on est pro-palestinien, on va nous dire vous êtes pro-Hamas. C'est complètement faux. Et quand on dit
c'est pas la même chose.
Ben bien sûr que c'est pas la même chose.
Mais l'espace qui est donné pour ce genre de récit-là, ce genre de partage-là, où on arrive à faire des nuances aussi, là. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que c'est rare comme ça? Ou qu'est-ce qu'il y a besoin de changer dans l'écosystème médiatique pour que la conversation qu'on soit en train d'avoir puisse exister plus largement?
Wow. C'est une bonne question, tu sais. C'est une bonne question, je sais pas. Moi, en même temps, à chaque fois que je trouve que je dis rien, jamais rien de grave, tu sais, je vais partager une nouvelle, je vais partager un discours politique qui m'a plu, un article, etc. Puis surtout au début, parce que j'ai fait ça très vite, parce que dès que j'ai vu le 7 octobre, je me suis dit, OK, je sais ce qui arrive, en fait. Ce qui me fait mal, c'est bien sûr les victimes israéliennes, tous ces morts innocents pour rien dans un festival de musique. Mais ce qui me fait mal, c'est ce qui va arriver. Puis j'en étais certain. Puis, puis les mensonges étatiques au Moyen-Orient sont énormes. C'est devenu polémique de dire la vérité, en fait. Et donc, dès que je me suis affiché là-dessus, j'ai reçu plein de messages genre « Mais attention, t'as pas peur de ce qui va arriver dans ta... Tu vas perdre du travail et tout. » Puis j'aurais dit « Mais si je dois perdre du travail pour dire il faut pas tuer des enfants et des femmes innocentes, ben, je préfère ne pas travailler. » Mais je pense que beaucoup de gens... craignent des fois ce qui peut se passer. Et autant, je te parle toute figure publique, hein. Je connais beaucoup de musiciens qui ont des followings extraordinaires, je sais ce qu'ils pensent en privé, et qui m'ont dit dès le début « Ouais, moi, je vais pas là-dedans. J'ai rien dit, mais je me dis « Si tu vas pas là-dedans, tu vas dans quoi, en fait ?»
Mais ce que tu es en train de dire, c'est que je te pose la question « Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir plus d'espace comme ça ?» Puis tu me dis « Mais en fait, aussitôt que tu commences à créer une seconde de contenu là-dessus, les gens sont comme fantassins à ta tête, en fait. C'est incroyable.
Oui, c'est que les gens aussi n'aiment pas discuter. Tu peux prendre beaucoup de sujets et qu'on va dire que le mainstream, ou plutôt la tendance générale, c'est de penser ça sur un sujet. Je te parle le Covid, tout ce qu'il y a eu avec les vaccinés, non vaccinés, ce qui est... Moi, ce n'est pas important de savoir si je suis d'accord ou pas, c'est de me dire, est-ce que vraiment tous les gens qui remettent en question les mesures sanitaires sont des imbéciles? Tous ces gens-là, quoi, on les met sur une île, on la fait exploser. Fait que cette espèce de façon de voir les gens qui pensent pas comme la majorité, peu importe le sujet. Puis, le fait que les médias sont devenus paresseux, c'est-à-dire que cette situation qu'on est en train d'aborder, elle prend du temps, elle est difficile à aborder, c'est pas facile, mais il faut pas le faire en 2 minutes et demie sur le coin d'une table. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 1000 situations que les médias n'abordent pas, et je pense pas que c'est parce qu'il n'y a pas des gens pour en parler. C'est que je pense que, un, le système réduit l'espace d'expression, et ceux qui arrivent à naviguer là-dedans sont très bons, mais aussi parce qu'il y a une forme de paresse, de se dire, est-ce qu'on veut vraiment aller là, tu sais? Est-ce qu'on a vraiment envie d'aborder ça? Puis, moi, si tu m'appelles en tant que média, tu me dis, viens parler de Palestine, je vais poser pas mal de questions avant de dire oui. Parce que je sais qu'est-ce qui peut... OK, j'aurai combien de temps? Je serai avec qui? Est-ce que vous allez me laisser vraiment parler, etc.? Je pense qu'on est dans un système où tu as envie quelqu'un qui dit « Oui, je suis là à telle heure. » Et l'extrême droite, si elle a pris autant de place dans les dernières années, c'est parce que c'est souvent des gens qui sont disponibles, qui savent parler, qui vont dire oui à toutes les situations quand les gens qui passent de l'autre côté vont souvent se poser plus de oui, mais ou avoir plus de gants blancs. Tu vois ce que je veux dire? L'autre chose, c'est que moi, même sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué quelque chose et ça commence à m'énerver, donc j'évite de le faire moi-même. Dès que j'ai fait l'entrevue à Tout peut arriver, ils ont coupé un petit extrait, ils l'ont mis sur le web. Je te dis, c'est là où j'ai compris ce que ça peut être la viralité, là, à ma modeste échelle, mais genre, ça a fait genre 150 000 ou 200 000 vues en 48, 60, c'était très très rapide. Et comment ma boîte peut être inondée, comment je peux avoir des ajouts, et il y a quelque chose d'enivrant là-dedans.
Oui. Et parce là, que c'était positif comme réponse.
À la majorité, mais aussi des négatifs, mais c'est toujours le cas. Mais c'est le buzz que tu peux avoir de dire, fou, genre, oh, je suis important, ou oh, je reçois ça, tu sais. Et je vois beaucoup d'influenceurs sur cette cause-là. Je ne sais plus s'ils le font pour la Palestine et les Palestiniens, ou ils le font pour eux. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je comprends.
Et je pourrais très bien me dire, écoute, chaque deux jours, je fais une vidéo, je dis ce que je pense, une minute, ça va me donner des abonnés et tout. Comme, j'ai un malaise aussi avec ça, tu sais.
Je comprends. Est-ce qu'il n'y a pas non plus, puis un besoin qui est là, c'est que je pense que, en fait, il y a très peu d'hommes arabes qui ont la place que tu as dans les médias québécois. Et la manière dont tu t'exprimes sur ce sujet-là, les gens canalisent leur énergie vers... En fait, il y a comme il y a des vides. Il y a des vides.
Clairement, ouais.
Puis je trouve tout à fait prévisible que quand tu décides d'aller prendre la parole là-dessus, ça crée cette énergie-là autour de toi. C'est sûr que ça peut être enivrant, mais ça peut être aussi être juste le symptôme d'un besoin. D'un besoin. Est-ce que tu vois que... Comment est-ce que, sachant ça, c'est un peu ça auquel je t'amène à réfléchir, parce que depuis tout à l'heure, tu me réponds que en fait, il y a des dangers pour la carrière si on commence à le faire, mais que c'est des risques que tu es prêt à prendre. Mais au-delà des risques que tu es prêt à prendre, il n'y a pas aussi quelque chose dans le besoin qui existe, auquel tu pourrais répondre d'une manière qui soit vraiment... En fait, qu'on parlait de journaliste cathartique, là.
Ben, écoute, pourquoi est-ce que les gens ne m'invitent pas plus pour parler de ça? Je pense que c'est dérangeant d'entendre cette parole. Tu sais, tout peut arriver. Je connais Marie-Louise, on a un lien de confiance. Anyway, je venais pour de la promo à la base pour parler d'Afrique.
Ouais.
Puis c'est que ça tombait en même temps que ça. Elle m'a dit, est-ce que je peux t'en parler? Je dis, bien sûr.
Ouais.
Anyway, j'ai pas envie de parler d'autre chose, la vérité, tu sais.
Ouais.
Maintenant, pourquoi est-ce que tout le monde en parle, va recevoir un Richard Martineau, le laisser dire que c'est pas la même chose quand la docteure Joanne Yu dit, écoutez, il y a une situation extrêmement compliqué, grave, et dit oui, mais c'est pas la même chose quand c'est des victimes de dommages collatéraux. Donc là, il parle de bientôt 35 000 personnes. Je dis 35 000, mais je sais très bien que c'est 31 000 en ce moment, mais ça augmente tellement tous les jours que je me dis que d'ici quelques jours, quelques semaines, on sera rendu à ce chiffre-là. Donc ça, tout ça, c'est des dommages collatéraux vis-à-vis de quelqu'un qui se fait tuer en festival parce qu'il est juif. Je m'excuse, mais ne pas donner un droit de réplique face à ça ou ne pas mettre quelqu'un en face qui pense le contraire, c'est un manquement genre grave, mais vraiment grave. Et s'ils avaient fait ça, mais de version contraire, quelqu'un pro-Palestine dit « Israël est un gouvernement qui fait un génocide, personne en face pour répondre », je peux dire que tout le monde en parle aurait des problèmes le lendemain, tu sais.
Là, tu parles du 500e anniversaire. Pas du 50e.
50e, ça aurait été beaucoup pour Guy Lepage.
Mais d'épisode, non?
Oui, 500e épisode.
500e épisode. Ouais.
De « Tout le monde en parle ».
Est-ce qu'on peut faire la différence, par contre, entre, malheureusement, des dommages collatéraux, comme il y en a dans plein de guerres, malheureusement, dans toutes les guerres, il y a eu des civils, malheureusement, qui sont morts, et des gens qui disent, on va creuser des tunnels pendant des mois, on va aller chez eux, on va aller dans un festival de musique et on va les tuer parce que ce sont des Juifs. C'est un niveau de barbarie qui est incroyable.
Et j'ai vu ça, puis ça m'a juste rappelé à quel point... En fait, il est là, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de gens issus de différents horizons qui se retrouvent à la télé mainstream. Mm. Puis, je ne suis pas en train de dire, ça n'existe pas, là, je ne suis pas en train de dire, oh mon Dieu, je suis une victime, il faudrait plus de place. Pas du tout. Moi, je suis bien où je suis. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai été recherchiste longtemps à la radio de Radio-Canada quand il y avait un truc de racisme, genre du racisme dans le hockey du junior majeur du Québec. Ben, le premier réflexe, c'était quel noir on connaît.
Oui.
Au lieu de se dire quel analyste sportif on connaît qui pourrait avoir une tendance à en parler d'une manière plus incarnée.
J'ai reçu de ces appels.
Mais tu sais combien de fois, surtout après Théo Youssef, je recevais un appel genre « Oui, Red, je travaille, émission, nanana. Il y a une bombe qui a explosé en Éthiopie. Le type apparemment aurait crié « Allah ou Akbar ». Je suis comme « Ok, je ne suis pas là en Éthiopie. J'ai lu le journal comme toi. Tu veux que je fasse quoi? Que je vienne en parler en live pour dire quoi, en fait? Le problème qu'il y a, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont accepter une première fois, puis une deuxième, puis une troisième, puis au final, tu te fais peinturer dans un coin, puis toi, on t'appelle juste parce que t'es le représentant des minorités de cette cause-là à tel endroit. Et ça aussi, je pense que c'est pas bon pour personne. Émilie, t'es pas seulement celle qui connaît la situation en Haïti ou l'intersectionnalité ou le féminisme. T'es un être humain qui a plusieurs épaisseurs. Et on peut pas te réduire aux deux ou trois derniers articles que tu viens de faire, comme moi, aux deux, trois derniers projets. Et oui, j'ai fait l'Afrique, j'ai fait les migrants de souche, j'ai fait Théo Youssef. Je peux parler aussi d'autres choses, tu comprends?
Est-ce que cette part-là de te faire peinturer dans un coin ou de te faire mettre dans une boîte, ça fait parfois que tu vas hésiter à parler de questions qui te touchent vraiment en disant que si j'en parle, on va me parler que de ça?
Bon, on va le dire clairement. Tu sais, même quand tu m'as approché pour ça, je t'ai dit oui, je suis down d'en parler, mais parler de quoi? Puis qu'est-ce que je vais dire, en fait? Parce que je suis rendu au point où je ne veux plus être hypocrite, faire semblant. Je ne parlerai que au jeu dans ce sujet-là. Et ne me dites pas qu'il y a un côté cool, acceptable, et puis que l'autre, ouais, non, je sais pas. Non, moi, je te dis, je pense que la Palestine existera toujours, que même si on tue tous les Palestiniens à travers un génocide, l'idée de Palestine sera toujours là. Et je pense que c'est inacceptable ce qui se passe. Et je vais arrêter de mettre des gants blancs pour le dire. Parce que si on est en train d'assister à un génocide et on n'est pas capable de le dire directement, sans avoir à se justifier, en fait, ben on a tout perdu. Et ça, je le pense vraiment, genre. Mais c'est pour ça que je te disais, j'ai hésité à venir ici, parce que je te disais, ben, au-delà de parler au jeu, je ne sais pas ce que je peux faire. Et je pensais que c'était peut-être une conversation plus objective ou large que tu voulais qu'on ait. Puis quand tu m'as dit, non, mais justement, c'est ça que je veux qu'on se dise, qu'on se parle au jeu, tu sais, ben là, j'accepte. Parce que je ne représente personne à part moi.
Non, mais ce qu'on disait au début sur le journaliste cathartique, c'est un peu ça. Je sais pas si tu réalises à quel point ça peut faire du bien aux gens de t'entendre, ne serait-ce que s'ils ne se reconnaissent dans ce que tu es en train d'exprimer et les émotions qui traversent ce que tu es en train d'exprimer. Ça, juste ça en soi, c'est beaucoup pour beaucoup de personnes. Et on verra comment les gens réagissent.
Ouais, mais...
mais je pense que juste ça, en soi, c'est déjà la solution qu'on cherche pour le journaliste, c'est déjà dans simplement réfléchir à voix haute, faire cet exercice-là de transparence-là, je pense qu'il y a déjà quelque chose là-dedans.
Ben merci, mais je commence à le comprendre. Ouais. Et je le comprends depuis moins longtemps que toi, parce que, comme je te dis, je pense que toi, tu as pris position souvent, enfin, dans tes couvertures ou quoi, mais depuis un bout de temps, donc tu vois l'effet que les gens te disent hey, « merci d'avoir écrit là-dessus » ou « merci d'avoir parlé de ça ». Moi, c'est plus récent. Mais oui, tu sais, j'en ai des messages genre hey, « ça me donne du courage d'en parler », tu sais. Puis c'est cool, tant mieux. Malheureusement, ça n'arrêtera pas le conflit demain, peu importe le post
qu'on fait. Non, mais le courage, c'est contagieux.
Juste pour finir ce point, c'est que je trouve que beaucoup de gens, pour soutenir la cause, se mettre en scène eux-mêmes.
Oui, oui.
Et ça, j'ai un malaise. Puis ça, tu sais quoi, je te le dis parce que voilà, moi, il y a 3 semaines, je rentre chez moi, je vois mon père qui n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Comme je t'ai dit, le village de mes parents, c'est à 10-15 kilomètres de la frontière israélienne. Ce que les gens ne savent pas, là, c'est qu'Israël bombarde tous les jours le sud du Liban, qu'il y a des bombes au phosphore, qu'il y a plein de choses. Et donc, je rentre, je ne voyais pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ah, ils ont tué une fille de 6 ans. Ben alors, ni ma mère, ni mon père, ni moi, on la connaît personnellement, mais elle fait partie du village, cercle familial. Ouais. C'est très petit. C'est comme les villages au Québec où tout le monde se connaît. OK, mais comment? Bah, elle jouait dehors avec des enfants. Une bombe est tombée, un missile, pardon, et le fragment, la truc. Puis, ça m'a tellement marqué. Puis, genre, quand j'ai vu mes parents, je me suis dit, OK, ça, faut que je le dise. Faut que j'explique aux gens que c'est pas que des combattants du Hamas qui meurent. Et là, pour une fois, j'ai une accroche directe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que je connais intellectuellement. Tu comprends? C'est quelqu'un de la famille, même si je la connaissais pas. Tu vois? Elle a une photo, elle a un nom, elle a un lieu, une date de naissance. Je sais exactement c'est qui. J'ai écrit. Puis pendant 3 jours, j'ai réfléchi. Puis je me suis dit, non, je vais pas le dire. Parce que cette victime-là, aussi proche soit-elle de ma famille, elle est pas plus importante que des 35 000 autres. Puis je pense que j'aurais eu beaucoup de messages du genre mes condoléances, c'est pas ce que je veux attirer comme sympathie sur une histoire comme ça. Ce que je veux dire, c'est arrêter de nous dire que la guerre, c'est que contre le Hamas quand il se passe tout ça. Quand un pays souverain comme le Liban se fait bombarder tous les jours. Tu sais, la tension est tellement montée et tout le monde que j'entends dans les discours, que ce soit du Hezbollah, de l'Iran, etc., sont plus dans la... faut pas qu'on aille là, faut pas qu'on aille là. Mais je me dis, vous allez perdre la face pour pas avoir la guerre, puis au final, vous aurez perdu la face, mais vous aurez la guerre. Tu sais, c'est ce que disait Churchill. Puis c'est là où, comme je te dis, des fois, je prends un pas de recul pour pas me mettre en scène moi-même, puis c'est, je sais pas si c'est bien ou c'est pas bien, mais c'est comme ça que je le vois, c'est qu'il faut faire attention de pas profiter d'une tragédie pour se faire un capital de sympathie, voilà.
C'est vraiment fascinant pour comme réflexion, comme une personne qui dont la carrière est dans la lumière, en fait. Je trouve que c'est un beau paradoxe de t'entendre réfléchir comme ça à voix haute sur l'importance de l'ombre aussi.
Mais moi, j'ai jamais voulu faire ça. T'sais, j'ai jamais rêvé d'être à l'écran ou à la radio. Même quand je fais de la musique ou quand je fais de la musique, moi, c'était pas d'être connu qui me plaisait, c'était de créer, tu sais. Puis je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de gens font les choses pour les mauvaises raisons. Je vois beaucoup de chanteurs et tout ça qui veulent être musiciens pour être connus, non pas pour être artistes, tu vois.
Ouais.
Et ça m'a toujours fait tiquer, en fait. Puis je le répète tous les jours, je suis béni de faire ce que je fais, je suis heureux, je suis content. Mais être connu, c'est pas un but. Et au contraire, si je pourrais... Tu sais, même Théo Youssef, la première fois que je l'ai présenté, je dis, je vais être derrière la caméra, puis je vais poser des questions. J'ai jamais voulu être devant, tu vois. Et je sais pas comment les gens hyper connus font pour vivre au jour le jour. Moi, c'est pas une vie qui me plairait, en fait.
Des parcelles d'idées au fond du tiroir, visage fatigué devant le miroir.
Ryan, merci de t'être ouvert sur notre crise existentielle commune, j'ai appelé ça comme ça, sur la manière de la réflexion, je pense qu'il est vraiment inachevé, je pense, de part et d'autre, mais sur la place qu'on a dans les médias ou dans le journalisme en ce moment. Mais j'avais envie, en fin d'émission, au moins de revenir sur les projets que tu as portés jusqu'à maintenant. Puis on a parlé déjà de manière transversale de Théo Youssef à quelques reprises. J'ai mentionné Demain l'Afrique qui est sur TV5 depuis l'automne. Mm-hmm. Il y a aussi Immigrants souches qui va être sur TV5 à partir d'avril, c'est ça?
C'est ça, début avril, je pense que c'est le 5.
Le 5 avril. Immigrants souches, pour les gens qui ne connaissent pas, donc tu es parti dans différentes régions du Québec à la rencontre de personnes qui ont immigré donc en région à l'extérieur des grands centres urbains.
C'est ça, qui ont choisi de s'installer en région pour X raisons.
Ouais.
Et ce que je voulais qu'on aborde, c'était aussi les préjugés que les Québécois peuvent avoir, mais aussi que les immigrants peuvent avoir sur le Québec et les Québécois. Et comment au final, que quand tu es en contact avec l'autre, et que, parce que c'est ça, pourquoi la région? C'est parce que nous, dans les villes, on peut vivre sans connaître le voisin, etc. En région, là, t'as pas le choix de connaître ton voisin, puis qu'est-ce qui se passe, le talk of the town et tout. Et donc, ça force une proximité qu'il n'y a pas ailleurs. Mm-hmm. Et dès qu'il y a cette proximité humaine, les barrières tombent. Et je suis sûr que, tu sais, je veux pas revenir dans un sujet lourd, mais Palestiniens, Israéliens, là, s'ils arrivent plus à s'entendre, c'est parce qu'on n'arrête pas de mettre des barrières entre eux. Mm. Le jour où on leverait ces barrières, je te dis pas que ce serait aussi simple que ça, je vis pas dans un monde de bisounours, mais il y a toujours eu des contacts entre ces communautés-là.
Des fois, mais c'est correct.
c'est vrai, on a le droit. Mais il y a toujours eu des contacts entre ces communautés-là, tu sais. Ouais. Fait que moi, je pense que faire tomber ces barrières-là, ça aide beaucoup.
Et ça, c'est ce qui te motive à faire ce que tu fais, essayer de faire tomber les barrières.
Oui, je vais te dire ce qui me motive sincèrement, là.
Ouais.
Moi, tu me dis cette idée-là, j'ai jamais été en Gaspésie, je suis comme, je rentre dans l'auto, on part tout de suite. Non, mais vraiment,
oui, c'est de partir à la découverte du Québec aussi.
J'ai cette chance incroyable. C'est premièrement ça qui me motive. Deuxièmement, rencontrer les gens. Mm-hmm. Donc, j'ai de la chance de rentrer direct dans une famille, direct dans un commerce. On m'ouvre les portes, tu sais. Je veux dire, quand tu rentres en tant que client ou quand tu rencontres quelqu'un, il ne t'amène pas à sa famille direct. Moi, c'est automatique. Fait que c'est très intense au niveau de l'énergie. Mais à chaque fois que je suis là, même quand je suis fatigué, je suis comme, waouh, je suis privilégié d'être là, tu sais. Donc, c'est ce qui motive. Et troisièmement, bien sûr, l'argent, comme tout le monde.
Les médias sont quand même en crise, on va le nommer. Mm-hmm. Puis la télé en particulier, mais il y a eu beaucoup de coupures. Puis au-delà des documentaires, tu fais aussi des présences sur un ensemble de plateaux, d'émissions plus quotidiennes où le public auquel tu t'adresses est très différent. Quels sont les défis pour toi d'être à la télévision dans cet écart-là, disons générationnel, régional aussi, entre les publics qui écoutent la télé et les publics qui sont peut-être notre quotidien à nous deux dans notre génération ici à Montréal?
Mais je vais te ramener, mon ami m'a dit ça il y a quelques temps, il m'a dit « Waouh, toi t'es en train de percer dans un domaine qui s'écrase ». Je trouve qu'il avait totalement raison. C'est-à-dire au moment où ça commence à marcher pour moi, je suis très conscient que la télé, en tout cas dans la forme actuelle, ne fonctionnera pas très longtemps. Moi, je pense pas que des chaînes que j'aime, tu sais, TV5, Télé-Québec, vont rester de la distribuer de la même façon qu'elles le sont maintenant, à travers le câble, etc. Tu sais. Et je sais pas, ça va être quoi l'avenir. Mais je me suis toujours dit, au pire, je ferai une formation de cuisinier ou j'irai travailler dans un café. Comme sincèrement, là, je te parle sérieux. Genre, le jour où les médias, ça marche plus, je sais pas si j'ai envie de faire des podcasts sur YouTube. Mais je suis désespéré quand je vois les plateaux culturels. Je me dis, on a vraiment un problème de curiosité. Quand j'ai vu le 500e de Tout le monde en parle, tu regardes le plateau, t'es comme, mais ok, je comprends, vous recevez des gens.
Ah oui, moi aussi, ça m'a frappé.
Mais ça frappe parce que tu dis, mais vous comprenez pas qu'on est rendu vraiment ailleurs au Québec, tu vois. Et c'est pas un problème de manque de diversité, c'est pas un problème de... C'est un problème de curiosité. Et les médias québécois ne sont pas assez curieux. Ils l'ont longtemps été. Je sais pas où est-ce qu'on a perdu la balle, mais de dire que, ah, ça, c'est pas intéressant. Tu sais, mais qu'est-ce que la madame de région va comprendre? Tu sais, pour des projets comme l'Afrique,
on
m'a souvent dit ça. Et moi, j'ai souvent dit,
la
madame de région, vous parlez de ma mère. Même si elle habite en région, moi, pour moi, dans ma tête, vous êtes en train d'insulter quelqu'un qui ressemble à ma mère. Ma mère, elle est curieuse. Elle a beau être âgée, tout ça. Elle est hyper curieuse. Elle veut pas qu'on la prenne pour une conne.
Et non, c'est littéralement ma mère qui sont en train d'insulter bon,
Mais non, moi, je lui envoie beaucoup d'amour. Parce que c'est fou de voir ça de cette manière-là. Ouais. Et ça fait 20 ans qu'on dit les codes d'écoute tombent, comment on renouvelle le public et tout. Mais vous n'avez jamais changé la formule. Mais le fait que toi, tu occupes la place que tu occupes dans ce que tu fais, le fait que moi, j'occupe la place que j'occupe dans ce que je fais, ça veut dire que le système ne va pas si mal.
Voilà.
Et on a souvent la tendance, tous, même dans nos vies personnelles, à regarder tout le négatif. Au lieu de se dire... Hey, c'est vrai que j'ai peut-être un problème d'argent ce mois-ci, ou mais je suis en santé. T'sais.
Voilà.
Et c'est bon des fois de se rappeler.
Voilà. Alors, c'est tout pour Détour aujourd'hui. Merci beaucoup, Raed, d'avoir été là.
Merci, Émilie. C'était vraiment très agréable.
S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a toujours envie d'entendre vos commentaires. Et là, en plus, on a fait un épisode en mode freestyle. Donc, j'ai vraiment, vraiment envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez nous trouver sur X à Canada Land et vous pouvez m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. Raed, où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils te cherchent?
Sur Instagram. Raed Am. Et mon compte d'artiste, c'est Sahel Officiel. Et Twitter aussi.
Oui, les gens peuvent aller écouter ton album.
C'est vrai? Et il y a un deuxième qui arrive.
Il y a un deuxième album qui arrive, donc carrément. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux 2 semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Aviva Lessard. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. André Prou est le coordonnateur à la production. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria et leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé l'épisode, encore une fois, partagez-le sur vos réseaux, parlez-en à vos proches. Allez écouter Raed, c'est-à-dire Sahel, artiste de hip-hop aussi. Trop d'appétit pour qu'on ferme les portes, c'est les princes à New York. L'amour du bled se conserve, on l'emporte, je suis prince à New York.